Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Makot, page 22, Daf Kaf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Mishum Avara, pour avoir allumé du feu un jour de Yom Tov, un jour de fête, sans nécessité, étant donné que ici il était interdit de manger ce nerf sciatique. Donc en fait, tout le feu qu'il a allumé, il n'avait pas le droit de l'allumer, puisqu'il n'y avait pas une nécessité. Et donc, il est passible de 5 peines de flagellation. Alors Agma demande, limite, à... et si s'il en avait été un aussi, qu'il n'y a pas de séparation des travaux les jours de fête, c'est-à-dire que tous les travaux sont considérés comme étant ceux-là même interdits, Mishum Avara lo Michaev, alors il n'aurait pas dû être passible de peine de flagellation pour avoir allumé du feu sans nécessité. Dai Chaev le Mishum Bisholo, parce qu'il a été déjà passible d'une première peine de flagellation, et donc d'avoir transgressé le Yom Tov pour avoir cuit sans nécessité. Agma répond en effet, Apik Avara, ve'ae gidanashe shel nevela. C'est vrai, il faut enlever l'interdit de la Mishnah, il faut enlever l'interdit de faire d'avoir allumé du feu sans nécessité et le remplacer par le gidanashe shel nevela, par le fait d'avoir mangé le nerf sciatique d'une nevela, c'est-à-dire d'une bête qui n'a pas eu l'abattage rituel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, pas seulement il a mangé le nerf sciatique, mais il a mangé d'une bête qui n'a pas eu l'abattage rituel, chose qui est interdite en elle-même. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Rabbi Chia a dit que dans ce cas-là, il est passible de 2 peines de flagellation pour ce qu'il a mangé et 3 peines de flagellation pour ce qu'il a fait cuire. Veïta, et si ça en avait été ainsi, c'est-à-dire que nous effaçons l'interdit d'allumer du feu sans nécessité et que nous le remplaçons par le fait qu'il a mangé un nerf sciatique d'une nevela d'une bête qui n'a pas eu l'abattage rituel, shalosh achilato chayav. Alors il se trouve qu'il est passible de 3 peines de flagellation sur le fait qu'il a mangé. Premièrement parce qu'il a mangé du nerf sciatique, deuxièmement il a mangé de la viande et du lait en même temps, et troisièmement il a mangé du nerf sciatique d'une bête qui n'a pas eu l'abattage rituel. Agmar répond en effet, afikavara vailatse achera. Alors il faut remplacer l'interdit d'allumer du feu sans nécessité et le remplacer par le fait qu'il a brûlé des atse asherah, c'est-à-dire des bois d'un arbre qui a été idoré comme une idole, comme un faux dieu, et c'est interdit de profiter d'un tel arbre. Ve'azar te'me'acha, et la mise en garde qui est écrite dans la Torah de ne pas profiter d'une pareille chose, c'est nous l'apprenons d'ici, de ce qui est écrit dans le verset, Veloid bag beir decha, et rien ne se collera à ta main, minachirem, etc., c'est-à-dire des objets qui ont été adorés comme faux dieux. Et donc c'est pour cela, donc ici, en fait, il a profité de ces bois qui ont été adorés, et donc c'est pour ça qu'il a transgressé un interdit. Alors le Rav Chaber et le Rav Ravashi, alors le fils de Rav a dit à Ravashi, si c'est ainsi qu'il a profité des atzei asherah, des bois qui ont été adorés, velil kenami mishum lotavi toeva et betecha, il devrait être passible d'une peine de flagellation aussi pour avoir transgressé l'interdit, et tu n'amèneras pas d'abomination à ta maison, et les atzei asherah, c'est-à-dire les bois qui ont été adorés, sont considérés comme étant une abomination, et donc ici il a transgressé cet interdit, et donc il devrait être passible de 6 peines de flagellation et non pas de 5. Alors, et là, Rabbi Maskina, Agma répond ici de quelqu'un nous parlons, que Gonche Bishlo Beatse Egdesh. Nous parlons d'un cas où il a fait cuire ce nerf sciatique avec des bois qui ont été sanctifiés, et non pas avec des bois qui ont été adorés, mais avec des bois qui ont été sanctifiés au temple. Et Veazarte Meacha, et la mise en garde de ne pas brûler et de ne pas profiter de bois pareils, nous l'apprenons d'ici. Vacharem, Tisefun Baesh, et leurs bois qui ont été adorés, vous les brûlerez dans le feu. Et vous n'en ferez pas de pareil à Hachem votre Dieu. Donc nous apprenons d'ici que nous n'avons pas le droit de brûler les bois qui ont été sanctifiés au temple. Et donc, puisque lui les a quand même brûlés, il a transgressé cet interdit. Daf Chavbet. Nous sommes Daf Chavbet Amud Aleph aux 2 points. Nous avons cité dans la Mishnah le cas d'une personne qui, en faisant un geste, en labourant un sillon, est passible d'avoir transgressé 8 interdits. La Gemara maintenant va nous poser des questions et va citer encore plusieurs autres interdits qui apparemment une telle personne pourrait transgresser. Et la Gemara demande pour quelles raisons n'avons-nous pas cité ces interdits dans la Mishnah. Alors nous, aux 2 points, la Gemara maintenant vient nous dire un moyen mnémotechnique de se rappeler de ces questions. C'est-à-dire chaque lettre de ces mots qui vont être dits fait allusion à un des Emoraïm qui a posé la question. Siman, Shnabai, Shanaz. C'est-à-dire chaque lettre de ce mot Shnabai, de ces deux mots Shnabai, Shanaz, fait allusion à un des mots Emoraïm qui va poser une question dans le passage suivant. Matkifla Raboshaya, Raboshaya a demandé, Vilichov Nami, Azorea Benachaletan, qu'on inclut dans la Mishnah aussi, celui qui sème dans un torrent impétueux. Vazarte Mercha, et la mise en garde de ne pas semer dans un torrent impétueux, nous la prenons d'ici. Asher, Loyar, Vodbo, Veloizara, dans lequel on ne travaillera pas et on ne sèmera pas. C'est-à-dire, il y a Henri qui nous dit que lorsqu'on trouve quelqu'un qui est mort entre deux villes et ne savons pas la cause de sa mort, alors la ville la plus proche de la personne, la plus proche de l'endroit où la personne a été trouvée, devra amener ce qui s'appelle Egla Arufa, une jeune jeunisse à qui on fracassera la nuque dans un torrent impétueux. Maintenant, cet endroit où la jeune jeunisse a eu la nuque qui a été fracassée, il est interdit d'y travailler la terre et d'y semer. Alors maintenant, la Gemara demande pourquoi nous incluons-nous pas dans la Mishnah un neuvième interdit qu'une telle personne pourrait transgresser en labourant, dans le cas où il labourait dans un torrent impétueux, c'est-à-dire dans un endroit où une jeune jeunisse a eu la nuque qui a été fracassée, à cause, pour la loi, lorsqu'on a accompli la règle de Egla Arufa. Matkif la Rafranina, Rafranina demande une autre question aussi, un autre interdit que l'on aurait pu inclure. Velirchov Namia, Mochekat Hashem Barichato, nous aurons pu inclure aussi quelqu'un qui efface le nom de Dieu lorsqu'il marche, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il laboure, il efface le nom de Dieu. Vehazar Temacha, et la mise en garde de ne pas faire une chose pareille, nous la prenons d'ici. Veibadetem et Shemam, et vous détruirez leur nom. Velot Asuken Hashem Elokechem, et vous ne ferez pas ainsi à Hashem, votre Dieu. C'est-à-dire, nous apprenons ici qu'il est interdit d'effacer le nom de Dieu. Matkif la Rabbi Abao, Rabbi Abao demande, Velirchov Nami à côté de Biharto, que l'on inclut aussi dans la Mishnah, quelqu'un qui en même temps qu'il laboure, il coupe sa tache blanche. C'est-à-dire qu'il pourrait, cette tache blanche pourrait être une tache de lèpre. Vazar Temercha, et l'interdit de la mise en garde de ne pas faire une chose pareille, nous l'apprenons d'ici. Ishamer Benega Atzarat. Fais attention à la plaie de lèpre. C'est-à-dire, nous apprenons d'ici que quelqu'un, lorsqu'il a une tache blanche sur lui, et cette tache pourrait être une plaie de lèpre, alors il n'a pas le droit de la couper afin de ne pas la montrer au Kohen, mais il est obligé de la montrer au Kohen. Ragma demande, pourquoi n'incluons-nous pas que, par exemple, cette personne, en même temps qu'il laboure, il a aussi coupé sa tache blanche, et donc il a transgressé un autre interdit, à part les 8 qui ont déjà été cités. Matkif le Abaye, Abaye demande, Velirchov Nami, que l'on inclut aussi dans la Mishnah, encore un autre interdit, c'est-à-dire que, à part les 8 interdits qu'il a fait, il a fait aussi autre chose en même temps qu'il a bourré, il a enlevé le pectoral du Ephod. Le Ephod, c'était l'habit du Kohen Gadol, sur lequel le pectoral était rattaché. Maintenant, il y a un interdit d'enlever le pectoral du Ephod. Maintenant, si lui, il a enlevé le pectoral du Ephod, il a transgressé cet interdit. Alors pourquoi ne disons-nous pas dans la Mishnah qu'il est passible aussi d'une autre peine de flagellation pour avoir enlevé le pectoral du Ephod? Ve'amessir Badé Aaron, et quelqu'un qui enlève les barres de l'Arche Sainte. C'est-à-dire, il y a aussi une autre règle qui nous dit que l'Arche Sainte qui était dans lequel il y avait les louchot, dans lequel il y avait les tables de la loi, était faite d'un cube en or. Et la façon de le porter, c'était qu'il y avait deux barres qui étaient accrochées à cette arche, et on portait l'Arche Sainte grâce à ces barres-là. Maintenant, il y a un interdit d'enlever les barres de l'Arche Sainte. Alors, pourquoi ne parlons-nous pas dans un cas où, par exemple, en même temps qu'il labourait, il a enlevé les barres de l'Arche Sainte, et donc il s'est rendu passible d'une peine de flagellation pour avoir transgressé l'interdit d'enlever les barres de l'Arche Sainte. Vazar Temercha, et leur mise en garde, c'est-à-dire de ces deux choses-là qui ont été citées, de quelqu'un qui enlève le pectoral du Ephod et de celui qui enlève les barres de l'Arche Sainte de leur place, nous l'apprenons d'ici. L'Oyasuru, et elles ne bougeront jamais, c'est-à-dire nous parlons des barres de l'Arche Sainte, et il écrit qu'elles ne bougeront jamais de l'Arche Sainte, mais l'Oyzach HaChoshen, et il écrit aussi un interdit que le Choshen, le pectoral, ne bougera pas du Ephod. Et donc ici, il y a encore deux autres interdits que nous aurons pu inclure dans la Mishnah. Matkif la Ravashi, Ravashi demande, Belirchov Nami Achorej Be'etze Ashera. Nous aurons pu inclure aussi un autre interdit dans la Mishnah, quelqu'un qui laboure avec des bois d'un arbre qui a été adorer. Vazartemecha est la mise en garde de ne pas profiter d'un arbre et des bois qui ont été adorés, nous l'apprenons d'ici. Veloitbak beyadecha meuma. Et rien ne s'attachera à ta main, et nous parlons des bois qui ont été adorés, nous apprenons ici qu'il est interdit de tirer profit de quelque chose qui a été adoré. Matkifla Ravina, Ravina nous dit, Ravina demande, Vechov Nami à côté s'il a notre vote. Pourquoi nous pouvons inclure un autre interdit dans la Mishnah, et pourquoi ne l'avons-nous pas inclus? L'interdit de Akotset Ilanotovot, quelqu'un qui coupe des arbres, des bons arbres fruitiers, Vehazar Temercha, et la mise en garde de ne pas couper des bons arbres fruitiers, nous l'apprenons d'ici, Kimimeno Tochal Veotolotichot, il est dit à propos des bons arbres fruitiers, car de eux tu mangeras, et ceux-là, tu ne les couperas pas. Et donc nous apprenons aussi qu'il est interdit de couper des arbres fruitiers.
Amar le Reb Zeira le Reb Imani, Reb Zeira lui a demandé à Reb Imani, Velirchov Nami,
et nous pouvons inclure aussi un autre interdit dans la Mishnah, Kegon de Amar Shevoa Shelo Echos Beyom Tov, le cas par exemple où il a juré de ne pas labourer un jour de fête. Et donc en fait ici, lorsqu'il a labouré un jour de fête, il a transgressé son serment. Et donc c'est encore une autre peine de flagellation qu'il devrait être passible. Alors Gemara répond, Atam Lo Kachala Shevoa. Là-bas, dans un cas pareil, le serment ne s'applique pas. Pourquoi? Mushba veomel mehar Sinaïu. Étant donné qu'il a déjà fait un serment au mont Sinaï d'accomplir toutes les mitzvot, donc maintenant, qu'il fait un nouveau serment de ne pas labourer un jour de fête, il jure sur quelque chose qu'il a déjà juré. Alors il y a une règle qui nous dit que lorsqu'on jure sur quelque chose que l'on a déjà juré, le second serment ne s'applique pas. Et donc c'est pour ça que le second serment n'a pas pris effet, et donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé son serment. Azamar lui a répondu, ici c'est ainsi, Kigon de Amar Shevoa Shelo Acharosh, Ben Bechol Ben Beyontov. Alors il lui a demandé, alors c'est très bien, nous pouvons trouver un cas où il a dit, je jure de ne pas labourer, ni un jour de semaine, ni un jour de fête. Et donc si c'est ainsi, des migodechala aleshvoe bechol, étant donné que le serment prend effet pour les jours de la semaine, parce que pour les jours de la semaine, il n'y a pas un serment précédent qu'il a juré, qui lui interdit de labourer les jours de la semaine. Donc le serment prend effet pour les jours de la semaine. Alors étant donné que le serment prend effet pour les jours de la semaine, Chala alenami beyotov. Alors le serment prend effet aussi le yom tov. Et donc le serment s'appliquera aussi un jour de fête. Et s'il laboure un jour de fête, ça s'appelle qu'il aura transgressé son serment. Et donc nous avons encore une possibilité de trouver un autre interdit qui n'a pas été cité dans la Mishnah. Alors moi répondant sur cette question-là, ce n'est pas difficile, parce que nous pouvons répondre « Mide deite becheila loktane » des choses sur lesquelles que l'on peut annuler, alors ça, nous ne les avons pas écrits dans la Mishnah. C'est-à-dire, un serment, nous pouvons toujours aller chez un chacham, un tamil chacham, pour lui demander d'annuler le serment. Et donc, il se trouvera qu'en fait, il n'a pas transgressé son serment. S'il annule son serment, alors ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé. Donc, puisque c'est quelque chose que ce n'est pas sûr qu'il ait passé une peine de flagellation, alors nous ne l'avons pas écrit dans la Mishnah. La Gemara demande vélo, ah bon, les choses que l'on peut annuler ne sont pas citées dans la Mishnah. Vare Ekdesh, nous voyons que le Ekdesh, nous avons cité des choses qu'il a. Les choses, le taureau dont nous avons parlé dans la Mishnah, c'est un taureau qui a été sanctifié. Et donc, si c'est un taureau qui a été sanctifié, alors il y a un interdit d'en profiter. Mais apparemment, et la Gemara comprend maintenant que c'est un taureau qui a été sanctifié à l'usage du temple. Alors, si c'est ainsi, la Gemara demande, c'est quelque chose qui peut être annulé par un Talmid Chacham, c'est-à-dire on peut annuler ce vœu d'avoir sanctifié ce taureau. Et donc, nous voyons que la Mishnah nous parle, oui, de choses qui peuvent être annulées. Alors, la Gemara répond, Bevechor, nous parlons ici pas d'un taureau qui a été sanctifié par vœu, mais nous parlons d'un taureau qui est né premier-né. Il y a une règle qui nous dit que les premiers-nés sont automatiquement sanctifiés au temple, et cette kedusha, cette sainteté, ne peut pas être annulée. Alors, on nous dit, bon, alors très bien, de Ekdesh, il n'y a pas de preuve. Des choses qui ont été sanctifiées, il n'y a pas de preuve, parce que nous parlons du premier-né. Vare Nazir, nous voyons que nous avons parlé dans la Mishnah de quelqu'un qui est Nazir, c'est-à-dire qui a fait vœu de Nazira, et dans ce vœu, il est inclus de ne pas se rendre impur. Et puisqu'il s'est rendu impur, il est passé de peine de flagellation. Alors, c'est ainsi, Nazir, de toute façon, il peut annuler son vœu, c'est-à-dire qu'il peut aller chez un Talmid Chacham, lui demandant d'annuler son vœu. Donc, nous voyons que la Mishnah nous parle, oui, de choses que l'on peut annuler. La Gemara nous répond, Ben Nazir Shimshon. Nous parlons d'un cas d'un Nazir comme Shimshon, c'est-à-dire que lorsque Shimshon était Nazir, ce n'est pas parce qu'il a fait un vœu de devenir Nazir, mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a imposé à ses parents, par l'intermédiaire d'un ange, il a imposé à ses parents que l'enfant qui va naître devra être nazir. Donc en fait, c'est une nazirut, un vœu de nazirat, pas qui a été fait par la personne qui est devenue nazir, mais qui a été imposé par le ciel. Et une telle chose ne peut pas être annulée. Alors comment on nous dit, si c'est ainsi, Nazir Shimshon, si c'est un vœu de nazir comme Shimshon, Barit Mouyelam Etimou, il peut se rendre impur aux morts. C'est-à-dire que ceux qui sont nazirs comme ce que Shimshon était nazir, n'ont pas d'interdiction de se rendre impur aux morts. Alors pourquoi avons-nous cité dans la Mishnah le cas d'un nazir qui s'est rendu impur et qui est passible de peine de flagellation? Agma répond, Ela et Tana, il se recolle les. Agma nous répond, il faut dire que ce Tana pense que les interdits ne pensent pas qu'un interdit général prend effet. C'est-à-dire, il existe une sorte d'interdit qui s'appelle Issur Mosif, un interdit qui rajoute. Comme par exemple, notre cas où nous avons cité quelqu'un qui avait déjà un interdit de labourer un jour de fête parce qu'il a juré au Mont Sinaï de garder les fêtes, et à part cela, il s'est rajouté un autre interdit grâce à un nouveau serment. Il s'est interdit de labourer un jour de fête grâce à un serment particulier. Alors ça s'appelle un Issur Mosif, un interdit qui rajoute sur un interdit qui est déjà présent. Et il existe un autre cas qui s'appelle Issur Kolel, c'est-à-dire qu'un interdit général. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il ne rajoute pas un interdit sur un interdit qui est déjà présent, mais il généralise un interdit qui est déjà présent. Par exemple, il existe le cas d'un interdit de labourer un jour de fête, et lui, grâce à son serment, généralise ce cas et s'interdit à lui-même complètement de labourer. Alors ça, sur le premier point qui a été cité, un interdit qui rajoute sur un interdit déjà présent, alors ça c'est sûr que le second interdit ne prend pas effet. C'est-à-dire le serment ne prend pas effet. Mais sur le second cas qui a été cité, c'est-à-dire un interdit général, alors là-dessus il y a une discussion. Il y en a qui pensent que, étant donné qu'il a généralisé l'interdit et donc il a agrandi cet interdit, alors puisque l'interdit, grâce à son serment, prend effet sur les autres cas, alors ce serment prend effet aussi sur la chose qui a déjà été interdite. Et donc, si il laboure un jour de Yom Tov, ça s'appelle qu'il transgressera son serment. Mais il y en a qui pensent que non. Même un interdit général ne peut pas rajouter un interdit sur quelque chose qui a déjà un interdit. Et donc, puisqu'il y a déjà un interdit de labourer Yom Tov, alors même s'il a fait un serment maintenant de ne plus labourer du tout, lorsqu'il labourera Yom Tov, ça ne s'appelle pas qu'il transgresse son serment. Car ce Tana pense que lorsqu'une personne fait un interdit général, ça prend effet sur les choses qui n'étaient pas interdites, mais cela ne prendra pas effet sur les choses qui étaient déjà interdites. Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah, nous n'avons pas cité le cas de quelqu'un qui jure de ne pas labourer. Car ça s'appelle un interdit général, c'est-à-dire qu'il généralise l'interdit qui avait déjà un jour de fête. Et ce Tana pense qu'un interdit général ne prend pas effet sur les choses qui ont déjà été interdites. Et donc sur ce point-là, il y a oui une réponse pour quelle raison la Mishnah l'a cité. Par contre, sur tous les points précédents, la Gemara reste en question et ne répond pas pourquoi la Mishnah n'a pas cité tous ces autres interdits. Maintenant, la Gemara nous dit autre chose complètement. Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya nous dit, Amar Bia Shorb Sulem Gudashim, quelqu'un qui accouple un taureau qui a été sanctifié au temple et qui est devenu disqualifié pour le sacrifice, alors le Keshnaïn, il est passible de deux peines de flagellation. Une première peine de flagellation, il est passible pour avoir profité d'un taureau qui a été sanctifié. Et une deuxième peine de flagellation, il est passible, comme nous l'explique le Rivan, pour la raison que, étant donné que ce taureau a été sanctifié, puis il est devenu disqualifié pour le sacrifice, alors à ce moment-là, un taureau pareil est considéré comme s'il y avait deux espèces en lui, c'est-à-dire une espèce sainte et une espèce non sainte. Et donc maintenant, lorsqu'il accouple ce taureau avec une vache, quel que soit l'état de cette vache, c'est-à-dire soit qu'elle soit sainte, soit qu'elle soit non sainte, c'est considéré qu'il accouple avec un taureau d'une certaine espèce avec une vache d'une autre espèce, étant donné que de toute façon il y a un côté qui ne sera pas un côté du taureau qui ne sera pas de la même espèce de la vache avec laquelle il est accouplé. Et donc ça s'appelle un accouplement kilaïm de deux espèces mélangées, et cela est interdit. Donc pour une telle raison, il sera possible d'une seconde peine de flagellation. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit, Amanik Beshur Sulam Gudashim, quelqu'un qui conduit un taureau qui a été sanctifié et qui a été disqualifié pour les sacrifices, Lokesh Loke, il est passible d'une peine de flagellation. Pourquoi ? Share Gouflechad, parce que bien que ce soit un seul et même corps, ce taureau soit un seul et même corps, les versets l'ont considéré comme étant deux corps différents. C'est-à-dire qu'il est considéré que dans ce taureau, il y a une partie qui est sainte et une partie qui est non sainte. Et donc maintenant, en fait, lorsqu'il conduit ce taureau, c'est considéré qu'il conduit deux espèces différentes. Et donc il y a cet interdit, il y a un interdit qui nous dit de ne pas conduire deux espèces différentes, de ne pas conduire par exemple un taureau et un âne. On n'a pas le droit de les conduire ensemble. Ça s'appelle kilaim, un mélange, et cela est interdit. De même qu'il est interdit de les accoupler ensemble, il est interdit de les conduire ensemble. Et donc maintenant, le chidouche de Rabbi Yitzhak, ce que Rabbi Yitzhak vient nous dire de nouveau, c'est-à-dire que même si c'est un seul taureau, étant donné que ce taureau est considéré comme étant partagé de deux espèces, alors il est passible d'une peine de flagellation pour avoir conduit deux espèces en même temps. La Mishnah nous dit, Kama Malkinoto, combien était-il frappé? C'est-à-dire une personne qui était passible d'une peine de flagellation, combien de coups devra-t-il recevoir? Arbaim Chester Achat, il devrait recevoir 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. Chez Neymar, comme il est dit, Bemispar Arbaim, dans le nombre 40, et nous apprenons de là, Minyan Sheosamuch l'Arbaim, le nombre qui est proche de 40, c'est-à-dire 39. C'est-à-dire que la Torah, nous apprenons de la Torah que ce qui est écrit, et Bemispar Arbaim, dans le nombre 40, l'intention n'est pas vraiment 40, mais le nombre qui est proche de 40, c'est-à-dire 39. C'est pour ça qu'il sera passible de 39 coups. Rabbi Yehuda nous dit, Arbaim Shlemot, il sera passible de 40 coups complets, c'est-à-dire pas 39, mais 40. Huloke, il sera frappé. Vechanoloke, taïtira. Et d'après Rabbi Yehuda, où sera-t-il frappé le coup qu'il y a en plus, c'est-à-dire, il y a 39 coups, mais d'après Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, il y en a un 40e. Où recevra-t-il ce 40e coup? Ben Ketefav, entre ses épaules. Maintenant, la Mishnah continue, nous dit, En Ovdim Oto, Ela Bemakot Reuyot Lishtalesh. Il y a une règle qui nous dit que les 39 coups qu'il recevait, c'est en fait la peine maximale. Mais si nous évaluons que cette personne n'est pas apte à recevoir 39 coups, mais seulement, par exemple, moins, alors il ne recevra pas les 39 coups, mais seulement les coups dont il est apte à recevoir. Car si nous évaluons que s'il reçoit plus qu'un certain nombre de coups, il pourrait, par exemple, mourir, chazel shalom. Alors dans un cas pareil, il ne recevra pas la peine maximale, mais juste les coups qu'il est apte à recevoir. Alors Mishnah nous dit, nous n'évaluons seulement des coups qui sont aptes à être divisés en 3. C'est-à-dire 39, c'est quelque chose qui peut être divisé en 3, par 13. Ou alors maintenant, il en est de même tous les coups. C'est-à-dire, il était divisé, par exemple, cette personne pouvait recevoir 21 coups, c'est divisible par 3. Ou 28 coups, c'est aussi divisible par 3. 35 coups, c'est aussi 36 coups, c'est aussi divisible par 3. Mais par exemple, si nous voyons que cette personne pouvait recevoir que 22 coups, alors nous ne lui dirons pas le nombre divisé par 3 au-dessus, mais le nombre divisé par 3 en dessous. C'est-à-dire, si nous voyons qu'il peut recevoir 22 coups, alors nous ne lui donnions que 21. Si nous voyons qu'il peut recevoir 35, nous ne lui donnons que 33, etc. Amdou, les Kabel Arbaï. Et nous allons expliquer, bien sûr, dans la Mishnah, dans la Gemara, pour quelles raisons nous devons diviser ces coups en 3. Amdou, les Kabel Arbaï. Si maintenant, ils ont évalué qu'une telle personne pouvait recevoir 40 coups, Veloke Mektat, et il a reçu une partie de ses coups. Et nous passons à la page suivante.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Ve'amdu she'en yachol lekabel arba'im. Et après, ils ont évalué qu'ils ne pouvaient pas recevoir les 40 coups. Alors, pas tout, dans un cas pareil, il sera exemple. C'est-à-dire, ils ont évalué, première évaluation, quand ils ont vu cet homme qui était passible de punition, ils ont vu telle personne et en bonne santé et tout, il peut recevoir 39 coups. Ils ont commencé à le frapper, quand ils ont commencé à le frapper, ils ont vu que s'ils ont lui donné 39 coups, c'est pas sûr qu'il resterait en vie. Ils ont dit, non, celui-là, il pourra recevoir que 30 coups, par exemple. Alors, dans un cas pareil, il sera exemple, il ne recevra pas les 39 coups. Amdou, les Kabel Shmonasre. Si, maintenant, le cas contraire. Au début, ils ont évalué qu'il pouvait recevoir que 18 coups. Ou Michelaka, et à partir qu'ils ont commencé à le frapper, Ils ont vu, ils ont évalué qu'ils pourraient recevoir les 40 coups. C'est-à-dire que la première évaluation qu'ils ont fait, ils se sont trompés en fait. Ils ont vu que 18 coups, mais en fait il est en meilleure santé qu'on ne pensait, et il pourra recevoir 40 coups. Malgré cela, Patour, il sera exempt, et il ne recevra seulement que 18 coups. Ma demande maintenant. Maïtama, pour quelle raison? C'est-à-dire, ma demande, pour quelle raison étudions-nous que on est passible seulement de 39 coups et non pas de 40? Alors, Iktiv Arbaim Bemispar, s'il avait écrit dans le verset 40 en nombre, c'est-à-dire qu'on place le mot 40 avant le mot en nombre, Avamina Arbaim Beminyana, alors j'aurais pu dire 40 en nombre, c'est-à-dire tu le frapperas de 40 coups. Ashtad Iktiv Bemispar Arbaim. Mais maintenant qu'il est dit dans le nombre de 40, c'est-à-dire que tu dois arriver, tu lui frapperas le nombre de coups qui arrive à 40, j'apprends de là, Minyan Sheu Sokem Et Arbaim. Le nombre qui arrive à 40 coups, et c'est-à-dire c'est combien? Le nombre qui arrive à 40, le nombre qui est juste avant, c'est 39, c'est-à-dire après 39, il y a 40. Alors dans ce nombre-là, le nombre qui est juste avant 40, ça c'est le nombre de coups que tu devras lui donner. Amarava, Rava nous dit, Kama Tipshay Sharinje, combien sont bêtes les gens des Kaime Mikame Sefer Torah, qui se lèvent devant un Sefer Torah, Velo Kaime Mikama Gavra, et ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Deilou be Sefer Torah Aktiv, car dans le Sefer Torah il est écrit Arbaim, tu devras lui donner 40 coups. Ve'atu Rabbanan, et les Rabbanim, les Talmid Chachamim sont venus, Batru Chada, et avec la force de leur étude, ils ont réussi à enlever un coup. Et c'est-à-dire, ils nous expliquaient que ce qui est écrit dans la Torah 40 coups, ce n'est pas 40 coups, mais c'est 39 coups. Donc nous voyons que les sages ont une certaine force, et donc les gens qui ne se lèvent pas devant les sages sont idiots. Rabbi Yehuda nous dit, Arbaim Shlemot, 40 coups complets, verroulé, etc. Amar Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak nous dit, Maïta Amad de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? C'est-à-dire, pour quelle raison Rabbi Yehuda nous dit que le 40e coup le 40e coup, on le frappera entre ses épaules? Et c'est-à-dire que Rabbi Yitzhak ne vient pas nous expliquer pour quelle raison Rabbi Yehuda a dit qu'on le frappera 40 coups. Parce que nous pouvons ça expliquer tout simplement. Rabbi Yehuda nous dit, il écrit dans la Torah 40 coups, on doit le frapper 40 coups. Là, Rabbi Yitzhak vient nous expliquer pour quelle raison on lui donnera ce coup entre les épaules. Elle nous dit, dirtiv, car il écrit, Ma makot ha'ele ben yadecha, ve'amar asher uketi bet me'avai. Que sont ces plaies entre tes mains? Et il dira ce que j'ai été battu dans la maison de ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, l'explication de ce verset, c'est-à-dire, ça veut dire quoi entre tes mains? Ça veut dire entre tes épaules. Et de là, la personne répond, c'est que j'ai été battu dans la maison de ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, le tribunal qui m'aime et qui me reproche pour les avérotes que j'ai fait, m'ont frappé cette plaie. Et donc, nous voyons que dans le verset, où il est dit où c'est qu'elle a été frappée. Elle a été frappée entre ses épaules. Verabana, alors, elle est sage, c'est-à-dire, les Tanakama qui a dit qu'on ne le frappera pas 40 coups. Alors, que font-ils avec ce verset? Ils expliquent que ce verset a été dit à propos des enfants, c'est-à-dire les enfants qui étudient à l'école. Alors c'est eux qui disent ça, ils disent, voilà mon maître, lorsqu'il m'a reproché, il m'a donné ce coup entre mes mains. Mais ça ne fait pas allusion à quelqu'un qui a reçu une peine au tribunal. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. En omdin ela bemakot ha-ra'uyot v'chule. On ne l'évaluait pas seulement des coups qui pouvaient être divisés en trois, etc. Et là, la Gemara fait allusion à la fin de la Mishnah, où nous avons dit que s'il a été évalué qu'il pouvait recevoir 40 coups, et qu'il a reçu une partie de ses coups, puis il s'avère qu'il ne peut pas les recevoir, il sera exempt, ou le cas contraire, il a été évalué qu'il pourrait recevoir 18 coups, et il a reçu une partie des coups, et après il s'avère qu'il peut en recevoir plus, il sera aussi exempt. La Gemara prend de là. Laka, in, s'il a déjà été frappé, alors il sera exempt. Lolaka, mais s'il n'a pas encore été frappé, c'est-à-dire qu'on a évalué qu'il pourrait recevoir 40, puis après on a évalué qu'il pouvait recevoir que 18, ou alors le cas contraire, on a évalué qu'il pouvait recevoir 18, et puis après on a évalué qu'il pouvait recevoir 40, avant qu'il n'ait été frappé, alors lolaka, lo, alors il ne sera pas exempt. La Gemara demande au Minou, mais nous avons appris apparemment le contraire. Amadou le kabel arbaim. Si on a évalué qu'il pouvait recevoir 40 coups. Vechazrou v'amdou shen yachol le kabel. Puis après, on est revenu sur cette évaluation et on a vu qu'il ne pouvait pas recevoir les 40 coups. Patour, il sera exempt, même s'il n'a pas été frappé. Amdou le kabel shmonaïse. Si on a évalué qu'il pouvait recevoir 18 coups. Vechazrou v'amdou shen yachol le kabel arbaim. Puis après, on est revenu sur cette évaluation et on a dit on a vu qu'il pouvait recevoir 40 coups, et pas seulement 18, Patour, il sera exempt.
C'est-à-dire, il ne recevra pas 40, mais seulement 18. Et donc, nous voyons, même s'il n'a pas été frappé. Alors ça, c'est apparemment, ça contredit ce que nous avons dit dans la Mishnah, que seulement s'il a été frappé, il est exempt. Et même pas s'il n'a pas été frappé. Alors, Rav Sheshet lo kasha, Rav Sheshet nous dit, ce n'est pas difficile. Adam du le yome, Adam du le machar ou le yome oche. La Mishnah nous parle dans un cas où la deuxième violation a été faite le même jour. Et donc, ce n'est pas logique de dire que l'état de la personne a changé en si peu de temps. Donc nous sommes obligés de dire que la première évaluation était une erreur. Donc c'est pour cela que nous disons, s'il a déjà été frappé, donc il a déjà eu honte devant le tribunal, alors à ce moment-là c'est pour ça qu'il est exempt. Mais sinon, il ne sera pas exempt parce qu'en fait, la première évaluation était une erreur. Et par contre, la Braïta nous parle dans un cas où il a été évalué, réévalué le lendemain ou un autre jour. Et là, nous pouvons très bien dire que son état de santé a changé. Et donc, c'est pour cela que nous ne disons pas qu'en fait, que la première évaluation était une erreur et donc est annulée complètement, mais nous disons que la première évaluation était juste, mais après, son état a changé. Et donc, c'est pour cela que ça ne change pas. Que ce soit qu'il a été frappé ou que ce soit qu'il n'a pas été frappé, de toute façon, il sera exempt, car la première évaluation n'est pas considérée comme étant une erreur. La Mishnah nous dit maintenant, s'il a transgressé un interdit, s'il a fait une avera, c'est-à-dire il a fait un geste, lorsqu'il a fait ce geste, il a transgressé deux interdits. Alors, Amdou, Omed, Echad, s'ils ont évalué une seule évaluation pour ces deux interdits, pour ces deux peines de flagellation, Lokeopato, il sera frappé et exempté. Veimlav, c'est-à-dire pour le reste des plaies, c'est-à-dire si par exemple ils ont évalué qu'il pourra recevoir 42 coups, alors il sera frappé et exempté du reste des coups. C'est-à-dire, on ne lui donne pas 39 plus 39 qui font 78, mais 42 ça suffira. Veimlav, mais sinon, c'est-à-dire que l'évaluation qu'on a fait, c'est qu'il ne pouvait recevoir par exemple que 36 coups. Alors l'OK, il sera frappé, c'est-à-dire il aura une première peine de flagellation. Ou mitrapé, il se guérira. Vechoser veloké, et à nouveau, on lui donnera une deuxième peine de flagellation et il sera à nouveau battu. Agma demande, Veatania, mais nous avons étudié dans une braïta, en omdin omed echad lishnelavim. Nous ne faisons pas une seule évaluation pour deux interdits. Donc comment as-tu dire dans la Mishnah que si on fait une seule évaluation et que si nous avons évalué qu'il peut recevoir 42 coups, il sera exempté? Nous voyons donc que dans la braïta, que nous ne pouvons pas faire une évaluation pour deux interdits et pour deux peines de flagellation. Adam Rav Sheshet nous dit, Lokasha, ce n'est pas difficile. Adam dou le arbaim vechada. Adam Doula Baim Betarte. Le premier cas nous parle d'un cas où il a été évalué qu'il recevra 41 coups. Et donc, puisque c'est ainsi, en fait, la seconde peine de flagellation n'a pas encore été entamée, parce que 41 coups, ce n'est pas un nombre divisible par 3. Et donc, il ne recevra en fait que 39 coups. Donc, s'il ne recevra que 39 coups, alors nous disons que ce n'est que pour la première peine de flagellation. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas évaluer deux peines de flagellation en même temps. Mais la Mishnah nous parle dans un cas où il a été évalué qu'il pouvait recevoir 42 coups. 42 coups, c'est un nombre qui est 8 divisé par 3, donc il recevra ces 42 coups. Donc en fait, il recevra 39 pour la première peine de flagellation et 3 pour la seconde peine de flagellation. Et donc si c'est ainsi, il sera exempt du reste des coups. La Mishnah nous dit maintenant, Ketan Malkin Oto, comment était-il battu? Kofesh Teyadav ala Amoud. On lui attachait ses deux mains sur un poteau. Bechazan Akneset, et le gardien de l'assemblée, Ochez Bivgadav, saisissait ses vêtements. Im Nikreou, s'il se déchirait, alors il se déchirait. Veim Nifremou. Et si il se déchirait aux endroits des coutures, c'est-à-dire qu'en fait, pas le vêtement ne se déchirait pas, mais c'est juste les coutures qui se défaisaient, alors il se déchire aux endroits des coutures. Atchou Megalet Libo, et donc il tirait ainsi jusqu'à qu'il découvre son cœur. Et c'est-à-dire l'endroit du dos où il devait recevoir les coups. Va'even etuna me'acharav, et la pierre était placée derrière lui, c'est-à-dire la pierre sur laquelle l'agent du tribunal se tenait pour frapper le condamné. Alors cette pierre-là était placée derrière le condamné. Chazan akneset omed alav, et le gardien de l'assemblée se tenait debout sur cette pierre. Oretsua beyado shel egel, et il tenait dans sa main une lanière faite en cuir de veau. Kefula achat leshnaim ou shnaim larba. Elle était doublée de 1 en 2 et de 2 en 4. Ushteretsuot shel chamor olot veyordot bo.
et deux lanières qui étaient en cuir d'âne montaient et descendaient dans cette lanière de veau. C'est-à-dire que cette lanière de, il y avait une lanière de veau qui était en fait, sur cette lanière de veau, on rajoutait encore deux lanières de, qui étaient en cuir d'âne.
Yada tefar, sa poignée était d'un tefar, c'est-à-dire d'une largeur de une poignée, c'est-à-dire la poignée de cette lanière.
Verba tefar, et la largeur de cette lanière avec laquelle on frappait le condamné était la largeur d'un tefar, c'est-à-dire d'une poignée.
Verosha magat al pikriso,
et le bout de cette lanière arrivait exactement au début de son ventre. C'est-à-dire on devait calculer la longueur de la lanière pour que on, lorsqu'on le frappait, le bout de la lanière arrivait au début de son ventre. Ils ont expliqué dans la Gemara qu'il y avait une boucle spéciale par laquelle on réglait la lanière, on la ragrandissait ou on la rapetissait.
On maquait auto shlish melefanav,
et on le frappait un tiers des coups devant lui, c'est-à-dire sur son ventre,
ou shtei yadot melacharav,
et deux tiers des coups sur son dos.
Ve'eno maquait auto, et on ne le frappait pas,
lo omed velo yoshev,
ni lorsqu'il était debout, ni lorsqu'il était assis.
Ela mutei,
seulement lorsqu'il était incliné.
Chez Neymar, comme il est dit,
ve'hipilo hashofet,
et le juge le fera tomber.
C'est-à-dire que le juge l'obligera à s'incliner.
Et on ne veut, il ne devra pas être debout ou rester assis.
Et
celui qui le frappait, il le frappait de une seule main et de toutes ses forces.
Et celui, le lecteur, celui qui lisait là-bas, il lisait ces versets-là.
Si tu ne te gardes pas d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu,
Vifla Hashem et Makotecha et Makot de Gomer,
et Hashem agrandira tes plaies et toutes les autres plaies, etc.
Vechoser le Trilat Amikra,
et lorsqu'il il avait fini, il revenait au début des versets.
Ushmartem et Divrei Abritazot,
et vous garderez les paroles de cette alliance.
Vechotem,
et il finissait comme ceci.
Veorachom Yechaper Avon de Gomer,
et lui le miséricordieux pardonne les fautes, etc.
Vechoser le Trilat Amikra,
et si celui qui donnait les coups n'avait pas fini, alors le lecteur continuait et revenait au début des versets.
Vimet tachatiado,
et si le condamné était mort sous sa main, c'est-à-dire qu'il a reçu trop de coups, il n'a pas pu supporter ses coups et est mort sous la main de l'agent du tribunal, alors pato, l'agent du tribunal est exempt de partir en exil.
Aussi flodret soachat,
mais s'il lui a rajouté un seul coup, ou met, et à cause de ce coup-là, alors le condamné est mort, a rezégolé. Dans un cas pareil, l'agent du tribunal est passible d'une peine d'exil à l'Iado pour avoir tué ce condamné.
Nit kalkel,
si il s'est sali, c'est-à-dire si le condamné s'est sali, ben berei, que ce soit avec des excréments, ben bemaim, que ce soit avec de l'urine, patou, il est exempt automatiquement et on ne continuera pas à le frapper. C'est-à-dire si nous voyons qu'au milieu du moment où on le frappait et ce condamné s'est sali, alors on ne continuera pas à le frapper et on ne finira pas de lui donner sa peine.
Rabbi Yehuda
nous dit, Aish Berei, si l'homme s'est sali seulement avec des excréments, il sera exempt, et non pas avec de l'urine.
Vaisha Bemaim,
et la femme, même si ce n'est que, et si elle s'est sali qu'avec de l'urine, elle sera exempt. Et nous avons expliqué dans la Gemara que la raison pour laquelle une telle personne est exempt, c'est parce qu'il écrit dans le verset « Venikla », c'est-à-dire « et il aura honte ». Alors, étant donné du moment que il s'est sali parce que, justement, à cause de ces coups-là, alors c'est considéré comme étant qu'il a eu honte, et donc nous n'avons plus besoin de continuer à appliquer la peine de flagellation. Nous avons fini le chiot de Daf Kavbet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.